Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une immense joie que j'accueille aujourd'hui à RFI l'un des écrivains majeurs de notre temps, essayiste, nouvelliste, romancier. Il est l'auteur d'une œuvre qui à chaque fois est un voyage, une ouverture sur le monde dont il embrasse les souffrances, les espoirs, incarnés par des femmes et des hommes qui se battent pour rester debout, à l'image de son nouveau livre intitulé « Apérogon », traduit en français par Clément Baude et que réédite aujourd'hui les éditions 10-18 après le grand format paru l'an passé chez Belfond. Bonjour Colm McCann.
Bonjour, merci beaucoup.
Vous avez pu traverser l'Atlantique pour venir en France, au plus grand bonheur de vos lectrices et lecteurs. Un pays, je crois, que vous aimez particulièrement, puisque je vous ai entendu une fois dire « Je suis irlandais, mais mon cœur est français ». Est-ce que vous voulez bien nous expliquer cette déclaration qui ressemble beaucoup à une déclaration d'amour ?
I came originally to France when I was 15 and 16.
Je suis venue pour la première fois en France quand j'avais 15 ou 16 ans.
I've always felt that the French people
j'ai toujours eu le sentiment que les Français et la culture française, c'est quelque chose de très engagé. Les poètes ont d'importance, les journalistes ont d'importance, les poètes ont de l'importance, c'est-à-dire, en fait, et le mot juste au bon endroit. Donc j'ai beaucoup de ce respect pour la littérature et quelque chose que j'adore. J'aime aussi beaucoup les paysages et puis les gens. Et je pense que la plupart des Irlandais et des Français s'entendent plutôt bien. Je suis née en Irlande, je vis à New York, mais une partie de mon corps est en effet en France, oui.
Avant d'entrer dans ce roman Monde, Apérogon, dont vous êtes l'auteur, il se trouve Colm McCann, et vous venez de le dire, vous vivez à New York, et notre entretien est diffusé 20 ans après les attaques terroristes. Est-ce que vous étiez à New York le 11 septembre 2001?
Yeah, in 2001, yeah. It's the 20th anniversary.
Oui, j'étais à New York en septembre.
I suppose we don't need anniversaries for things that we can't forget.
C'est effectivement un anniversaire. Je pense qu'on n'a pas besoin en fait d'anniversaire pour des choses qu'on n'oubliera jamais.
You know, I was there that day. My father-in-law was in the first building to be hit,
beau-père était dans le premier bâtiment, le deuxième qui a été bombardé. Il s'en est sorti. Il y avait le bleu du ciel, le choc, tout ce qui était autour de nous. D'une certaine manière, je suis encore en train de penser les blessures que ceci a provoqué. C'est quelque chose qui s'est produit à New York, mais ça s'est aussi produit à Belfast, à Paris, en Australie. C'était une des choses dont tout le monde dans le monde a eu une expérience simultanée. Et je crois que ça a été un des grands événements de l'histoire où réellement tout le monde a eu l'expérience au même moment. Et je crois que c'est exactement ce qui va se produire avec la Covid. Il y a des gens qui disent que effectivement c'est la fin du monde, mais je crois que l'histoire ne s'arrête pas. Notre histoire ou nos histoires ne s'arrêtent jamais.
Et
voilà, c'est une découverte en fait de se dire que nos histoires ne terminent jamais.
Il est temps maintenant de vous entendre parler d'Apérogon, parce qu'il y a une infinie de questions qui s'imposent à l'image du titre. Je le rappelle, Apérogon désigne une figure géométrique qui possède un nombre infini de côtés, infini aussi comme le sujet de votre roman. Deux hommes, Rami Elnanan, israélien, et Bassam Aramin, palestinien. Deux pères qui ont perdu à quelques années d'écart leurs filles, Smadar et Abir, 13 et 10 ans, tués dans des attentats. Deux combattants de la paix qui ensemble ont décidé de raconter leur histoire au monde. Deux personnes qui existent vraiment et dont vous avez fait connaissance, Colm McCann, lors d'un voyage en territoire israélo-palestinien en 2015. Est-ce que cette rencontre a bouleversé votre vie ?
Absolutely. Absolutely, it changed my life.
Oui, tout à fait, ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie. Une après-midi, dans une ville qui s'appelle Béjala, j'ai monté un escalier, je suis rentrée dans une pièce où il y avait deux hommes, on a commencé à parler, ils m'ont raconté leur histoire, et d'une certaine manière, cette histoire a ouvert ma cage thoracique, et ça a tordu mon cœur dans tous les sens, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous savez, ces moments où vous êtes là, et en même temps, vous voyez, et vous vous dites, voilà, ça, ça va me changer pour toujours. Je n'oublierai jamais ça. Ils m'ont raconté cette histoire incroyable et comment ils étaient devenus amis après avoir perdu leur fille. Des amis venant d'endroits différents. Et ce sont des gens qui voyagent dans le monde entier pour raconter leurs histoires. Et une des filles qui disent, c'est on n'a pas besoin de s'aimer, on n'a même pas besoin de s'apprécier, mais il faut qu'on se comprenne. Parce que si on n'arrive pas à se comprendre les uns les autres, d'une certaine manière, on finira par s'écouter les uns les autres, six pieds sous terre. Hein. Et je trouve que c'est effectivement une parole courageuse de la part de ces deux hommes. Ils ont eu des vies difficiles, bien sûr, mais ce sont aussi des gens joyeux, rigolos, et ils ont réussi à transformer leur douleur en quelque chose de puissant. C'est comme s'ils avaient réussi à maîtriser et exploiter cette douleur. Hein. Voilà. Leur vie continue et je les adore en fait. C'est des gens avec qui je suis toujours en contact. Ça a été un tel plaisir d'écrire sur eux, même si vous pouvez l'imaginer, c'est très difficile de parler d'un enfant qui est mort sous le feu d'une balle en caoutchouc et où l'autre enfant est mort dans une attaque terroriste à la bombe. Et toute cette noirceur, il y a beaucoup de poésie arabe du 6e siècle qui dit « Y a-t-il un espoir ?» que cette désolation, en fait, m'amènera quelque chose. Parce qu'effectivement, le monde est désolé, mais y a-t-il un espoir qu'on arrive à transformer ceci en quelque chose de positif ?
Ce sont incontestablement deux figures héroïques. Et on ne sait plus d'ailleurs pour quelles raisons on les admire à ce point, parce que soit c'est le fait qu'il n'ait jamais cédé à l'idée de la vengeance, sachant d'ailleurs que Bassam a rallié les combats pour la paix 2 ans avant même que sa fille soit à son tour assassinée. Donc c'était déjà un homme convaincu. Ou est-ce que c'est le fait que l'un et l'autre se sont ouverts à la culture de l'autre? Par exemple, le Palestinien, encore une fois, a fait une thèse sur la Shoah. Le fait qu'ils disent que ce n'est pas la différence de leur religion qui suscite la violence, mais l'occupation des territoires, ou le fait qu'ils incarnent un espoir si idéal, si puissant, qu'en vous lisant Colm McCann, qu'en les écoutant, on finit par se dire « mais oui, à eux deux, ils vont changer les mentalités ». Qu'est-ce qui vous suscite le plus votre admiration chez ces deux hommes ?
You know, it's all of the above.
Alors, je crois que c'est tout ce que vous avez mentionné. The way they operate is quite extraordinary. La manière dont ils fonctionnent est assez extraordinaire. C'est ce que Beckett disait, on ne peut pas continuer, on doit continuer. C'est-à-dire, ils se sont dit qu'ils allaient raconter ces histoires jusqu'à la fin de leur jour, ou au moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raison de les raconter. Et ce sont de grands amis. Ils sont courageux. Ils luttent contre l'occupation. S'ils vont dans une école en Israël, quelquefois il y a des émeutes à l'extérieur de l'école. Il y a des parents qui refusent que tous les deux aillent dans une école. Surtout, ils n'acceptent pas que Bassam, qui a été un terroriste et qui a passé 7 ans en prison, rentre dans une école. Et en fait, ils vont dans l'école, ils parlent avec ses enfants, et même juste si en parlant à ses enfants, ils n'arriveront à toucher qu'un seul des enfants au fond de la classe, ça a du sens. Donc ils sont courageux, résilients, et ils ont cette personnalité incroyable. Je suppose qu'on dirait comme Gramsci, on peut être un pessimiste de l'intellect et un optimiste de la volonté.
They're both pessimists and they're optimists.
Et je crois qu'ils sont effectivement à la fois pessimistes et optimistes.
Et
c'est vraiment fascinant de les voir, en fait, travailler tout ça.
Je fais juste une petite précision pour nos auditeurs. Bassam, en effet, a fait 7 ans de prison, mais pas du tout parce que c'est un terroriste, parce qu'il a été arrêté à 17 ans de façon très arbitraire et qu'il a été jeté en prison. Ou d'ailleurs, peut-être commence aussi son ouverture vers l'autre, puisqu'il va sympathiser avec un de ses gardiens israéliens. Et au-delà de l'admiration que vous avez pour Rami et Bassam, à quel moment, Colm McCann, vous dites-vous, il y a une nécessité à écrire ce livre qui va aussi au-delà de leur histoire? Est-ce que c'était pour donner encore plus d'écho à leurs paroles par un livre, par des écrits?
Well, you know, on a literal level, after I met them, I went back to New York and I said, I
Alors,
want to write
les avoir
Israel
rencontrés, en fait, dès que je suis rentrée à New York, je me suis dit, je vais écrire sur l'Israël et la Palestine. Et puis je me suis dit, mais qui je suis donc, en fait, hein, quelle est ma légitimité pour le faire? Et j'ai essayé de faire autre chose. Ça n'a pas marché. J'ai essayé d'un autre projet. Ça n'a toujours pas marché. Et donc, mon esprit revenait toujours à ces deux hommes. Donc, je suis montée dans un avion et je suis allée les voir. Je leur ai dit, est-ce que vous accepteriez que je raconte votre histoire? Ils m'ont dit oui, mais je leur ai dit, mais attendez, moi, je suis un romancier, ça veut dire que j'invente des choses, et ils m'ont dit, ben, c'est OK. Et donc, d'une certaine manière, je voulais rentrer dans leur tête, rentrer dans leur cœur, et je voulais essayer d'écrire, en fait, un livre qui est une forme différente de tout ce qui avait été fait avant. Hein. Et c'était quelque chose que j'avais envie de faire, et donc ils m'ont laissé faire ce que j'avais vraiment envie de faire, et ça, c'était absolument extraordinaire. Et quand ils ont finalement lu le livre, ils m'ont fait tellement de compliments, on était toujours très amis, même si j'ai changé des petites choses à leur propos, pas pour transformer la réalité, mais d'une certaine manière pour augmenter la réalité, pour mettre un ciment. Voilà, et donc cet Israélien, donc Rami, conduit une moto rapidement, j'ai été derrière lui, mais en fait, sa moto, c'est une moto automatique, alors que dans mon livre, c'est une moto qui a des vitesses. Et pourquoi ça? Parce que je voulais donner l'impression au lecteur d'être sur cette moto, hein, et d'avoir donc l'embrayage, la vitesse, le choix de la vitesse, la décélération, parce que c'est quelque chose, en fait, qui permet au lecteur de vraiment mieux ressentir les instants, le moment. Mais c'est des petites choses qui font quelquefois toute la différence.
Et en effet, c'est tout votre art de romancier, Colm McCann, qui fait la différence. Bien sûr, vous avez cette histoire extraordinaire, mais vous en faites quelque chose d'autre grâce aux mots, grâce à la littérature. Et ce sera le sujet de notre conversation dans un instant. Mais tout de suite, je voudrais vous proposer, Colm McCann, de faire une pause musicale dans cet entretien et d'écouter un des titres que vous citez à plusieurs reprises dans votre roman, une chanson que la jeune Smadar écoute en dansant, Nothing Compares to You, de Sinéad O'Connor. Yeah. Vous êtes d'accord?
Yes, please. That song breaks my heart.
Ouais, c'est une chanson qui littéralement me brise le cœur. Hein, et quand je pense à Smadar, je me dis, voilà, rien ne peut être comparé à toi. Donc c'est ce que Rami pense. And, c'est une chanson formidable et c'est une chanson qui a vraiment du sens pour moi. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Thank you.
Et sur ce magnifique titre, Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor, une chanteuse irlandaise née comme vous en Irlande, à Dublin, nous reprenons notre conversation avec Colm McCann, notre invité d'honneur aujourd'hui dans Littérature sans frontières sur RFI à l'occasion de la réédition en poche aux éditions 10-18 de ce magnifique roman Apérogon. Un livre, on l'a dit, inspiré de l'histoire vraie de Rami et Bassam, israéliens et palestiniens, engagés dans un combat pour la paix, même si ça semble être un peu un oxymoron, mais c'est le cas. Mais c'est un sujet qui a un écho au-delà des territoires, au-delà de cette région du monde. Par exemple, est-ce que l'écriture de ce roman, Colm McCann, vous a renvoyé au conflit nord-irlandais qui a duré 30 ans entre 1968 et 1998?
Yeah, I grew up in Ireland, and if you had told me at the age of 16,
en Irlande, si vous m'aviez dit quand j'avais 16 ans, en 81, qu'il y aurait la paix en Irlande, au moment où j'aurais 56 ans, qui est l'âge que j'ai aujourd'hui, j'aurais dit, mais c'est impossible. J'ai vu des choses se passer, j'ai aussi passé des checkpoints, j'ai vu la guerre, vraiment. Et d'une certaine manière, je crois que ça m'a permis d'accéder, en fait, aux difficultés et à la douleur qu'ils peuvent avoir à voir avec tout ça. Et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé en Irlande du Nord. Et certaines fois, je ne comprends pas non plus ce qui s'est passé en Israël et en Palestine. Et c'est très troublant. Et effectivement, ça va de ne pas comprendre. Hein. Et quand on rencontre des gens comme Rami et Bassam, et quand on voit en fait la réalité de leur douleur,
hein,
évidemment, la douleur en Israël, la guerre, pardon, en Israël et en Palestine, c'est quelque chose hein, qui est utilisé pour des conflits. Et il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui s'identifient avec les gens qui sont là. Moi, je n'étais pas du tout impliquée dans cette histoire-là. Hein. Je n'avais pas de cheval dans la course. Je ne suis pas juif, je ne suis pas israélien, je ne suis pas palestinien. Je voulais juste me rendre là et comprendre quelle était en fait l'histoire humaine au centre de tout ça. Et je dirais que d'une certaine manière, j'ai eu de la chance et j'espère que j'ai écrit un livre qui raconte la vérité de ces deux hommes.
Alors, je ne sais pas si il y a eu des éclats de votre mémoire personnelle qui ont nourri ce roman, mais ce qu'il faut dire maintenant, en effet, à nos auditeurs, c'est que ce livre est précisément composé d'éclats, de fragments, qu'on peut interpréter soit comme les éclats d'une bombe à fragmentation qui, par la pulvérisation, touche toutes les personnes qu'il y a autour et même encore beaucoup plus loin qu'on ne peut le penser, soit comme des étoiles qui sont à la fois une, mais qui composent un ensemble de lumière quand la nuit est obscure, ou encore comme les oiseaux, qui sont très présents d'ailleurs sur la couverture des deux éditions, des oiseaux qui volent à la fois seuls mais ensemble et avec ce sentiment que ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et ça fait la totalité d'une humanité. Avec cette structure des 1001 chapitres, au milieu deux fois le chapitre 500 d'ailleurs, C'est la voix de vos personnages de Rami et Bassam. On va revenir sur cette idée de mille et un qui fait penser à mille et une nuits, le livre dont il est aussi question à la fin. Mais je voudrais rester d'abord sur cette structure des fragments. Que vous permet la multiplicité de cette narration?
I mean, you say it beautifully. Thank you. Talking about the stars.
Vous l'avez dit bien joliment en parlant des étoiles, des oiseaux, du vaste univers. Les gens disent que le monde est fait de molécules, mais c'est vrai aussi pour moi que le monde est fait d'histoires et nous sommes élevés au lait des histoires, je dirais. Votre histoire, mon histoire, celle des autres, ça n'a aucune importance, que ce soit l'Israël et la Palestine, ça pourrait aussi se passer à Paris ou ailleurs. D'une certaine manière, on est toujours complice, on est toujours impliqué dans tout ce qui se passe n'importe où dans l'univers. Il faut qu'on fasse attention à ce qui se passe autour de nous. Les oiseaux migrateurs étaient pour moi une métaphore. Ils viennent d'Irlande, ils viennent de France, de Suède, et ils volent vers l'Israël et la Palestine. Mais ils viennent aussi d'Algérie ou d'Afrique du Sud. D'une certaine manière, donc, c'est le monde entier qui se rencontre dans la masse de l'air qui est au-dessus de Jérusalem. Et donc, d'une certaine manière, on peut regarder ça en se disant, mais ça nous, collectivement, appartient. Et je crois qu'on trouve l'universel dans le local. Vous racontez une petite histoire et d'une certaine manière, vous racontez l'histoire du monde entier. Et comme vous l'avez dit, le livre est fait de fragments et d'une certaine manière, il est un peu délibérément embrouillé pour le lecteur. C'est-à-dire qu'au début, les gens lisent et peuvent se dire, mais c'est un peu dingue ce truc. Voilà. Là, on parle d'une fille, on parle du dernier repas de François Mitterrand, on parle de ces oiseaux qui volent, mais on va où là c'est vraiment, c'est très troublant, on n'y comprend rien. Et quand on perd en fait cette idée d'être, quand on est un peu perdu, ça veut dire qu'on s'intéresse aux gens et non plus seulement aux idées ou à la politique. Et c'est en fait ce que font Rami et Bassam. Ils nous permettent en fait d'approcher au plus près du cœur humain et c'est comme ça, je crois, que la littérature fonctionne.
Et c'est ce qui est magnifique avec vous, Colm McCann, parce que vous épousez l'infinité de votre sujet, l'infinité de la vérité, avec une écriture infinie qui embrasse tous les genres, l'encyclopédie, les pensées intérieures, les coupures de presse, les journaux, enfin, et j'en passe, sans oublier les dessins, les photographies. Ah, d'ailleurs, je voudrais absolument signaler que page 442, il y a cette petite photo en noir et blanc, qui est une photo que vous avez prise de Rami et Bassam endormis dans un bus, l'un contre l'autre. Yeah. C'est absolument sublime. Et ça s'inscrit aussi dans le projet de Rami et Bassam. Je ne sais plus lequel des deux a un autocollant où il y a écrit « Ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas ». Mais est-ce que la littérature, et ce livre en particulier, permettent de continuer la discussion.
Yes, absolutely.
Oui, oui, tout à fait.
Yeah. That's the function of literature.
Et c'est la fonction même de la littérature.
It's the beauty of, you know, us trying to understand. And also,
et c'est la beauté de cette tentative que nous faisons de comprendre. La littérature n'a pas à être simple, elle peut être complexe, un peu brouillonne. Peut-être ça me permet d'être en lien avec quelqu'un au Mozambique, au Salvador, au Nigeria, en Amérique du Sud, dans la France des campagnes, si je peux effectivement arriver à entrer en contact avec ces gens, je peux être moi-même une multitude de personnes. C'est un peu comme si, à travers la littérature, nous permettions au monde ou au poumon du monde de s'agrandir.
Et je vois ça aussi comme le passage de flambeaux, les flambeaux de l'espoir. Évidemment, entre Rami et Bassam, ils vous ont passé aussi ce flambeau que vous transmettez dans ce livre. Et puis le flambeau, maintenant, il est repris par leur fils.
Yeah, that's either beautiful or terrifying.
C'est, ça peut être à la fois terrifiant et à la fois beau. Hein. Rami et Bassam voudraient que l'histoire s'arrête là. Hein. Ils en seraient très heureux. Et comme vous l'avez dit, effectivement, leurs enfants sont en train de passer ce flambeau comme des petites bougies. Mais s'ils le passent à suffisamment de gens, peut-être qu'effectivement, ça va permettre à la lumière d'être présente. Hein. C'est-à-dire que c'est à la fois très beau et en même temps, c'est assez terrifiant de penser à ça. Ils ont maintenant, en fait, des petits-enfants, tous les deux, et ils espèrent vraiment, en fait, que leurs petits-enfants n'auront pas besoin de raconter cette histoire. Hein. Ils espèrent vraiment qu'ils n'en auront pas besoin à un certain moment. Hein. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais bon, c'est une pensée romantique, t'es un peu sentimental sur cette histoire. Hein. Voilà, le mur de Berlin est tombé, la guerre s'est arrivée. Rami et Bassam le disent, qui aurait pu penser, après 1945, qu'il puisse y avoir en Israël, à Tel Aviv, une ambassade allemande, hein, et qu'il y aurait une ambassade israélienne à Berlin, hein, en 1945, qui aurait cru ça. Donc, les choses arrivent. Hein. Et donc, je crois que Rami et Bassam, espèrent que d'une certaine manière, ils n'auront plus longtemps à voir ce flambeau passer, voilà, et qu'ils arriveront juste à parler.
Il y a encore mille et une choses extraordinaires à dire sur ce livre, encore plus extraordinaire. Malheureusement, le temps nous est compté, Colm McCann. Je voudrais juste finir en citant cette phrase qui me hante depuis que je l'ai lue sous votre plume. « Si vous divisez la mort par la vie, vous obtenez un cercle.
Mm-hmm. » Yeah. I want to keep talking to you forever. Let's talk. Let's keep talking.
Je voudrais pouvoir parler avec vous pour toujours. Hein. You know, allez, on va continuer cette conversation. Mais si vous avez d'un côté la vie, de l'autre côté la mort, et si on peut faire à partir de là un cercle, peut-être que on peut arriver à tous se rencontrer. Et comme vous l'avez dit, le mot à paragon est effectivement un mot étrange qui renvoie à une figure géométrique qui a un nombre infini de côtés, mais il y a aussi un nombre infini d'histoires. Et plus on aura la possibilité d'entendre ces histoires, plus on aura la possibilité de réaliser ce cercle. Je crois que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui va demander de l'énergie. Bien sûr, la paix est plus difficile que la guerre, hein. Les gens ont tendance à oublier ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme Rami et Bassam, et c'est pour ça qu'on a besoin de dire et de redire leur histoire. Hein. Et donc, passer le flambeau.
Le flambeau. Merci.
Merci infiniment, Colm McCann, d'avoir partagé avec nous vraiment ce très grand livre qui a reçu plusieurs prix, le Grand Prix des lectrices de Elle, mais aussi le prix Montluc Résistance et Liberté 2021 et le prix du meilleur livre étranger 2020, Sofitel. Je souhaite à tous nos auditeurs d'avoir la chance de pouvoir lire ce livre fondamental. Donc je le rappelle, Apérogon de Colm McCann, disponible à la fois en grand format aux éditions Belfond et aux éditions 10-18, traduit par Clément Baude. Oui. Et merci beaucoup, évidemment, à Pascal Fougère qui a admirablement traduit vos propos aujourd'hui, Colm McCann.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.